Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast « Une alchimie de l'éveil ». Je suis Karagir et aujourd'hui, nous partons en exploration, faire une cartographie de la méditation. Qui aurait dit qu'il serait possible de cartographier l'expérience méditative? Eh bien, c'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui en partant ensemble en voyage. Il sera question, d'étape par étape, de comprendre qu'est-ce qui mène aux différents espaces de méditation, comment s'y rendre et aussi quoi y découvrir. Chers amis, comme il est devenu coutume dans nos épisodes, nous allons aller droit au but, vous décrire à quoi vous attendre dans cet épisode. Ainsi, vous saurez d'ores et déjà si vous êtes au bon endroit pour passer les prochaines minutes ensemble. Comme indiqué en introduction, nous allons faire une cartographie de l'expérience méditative. Celle-ci n'est pas forcément rattachée à la profondeur de méditation, mais l'état de pratique méditative et les différentes portes que vous pouvez ouvrir dans cet état de pratique méditative. Quand il s'agit de profondeur de méditation, je vous renvoie à l'épisode antérieur « Comment méditer profondément ». Ceci fera partie d'une série de 3 épisodes, dont le prochain sera une méthode neuroscientifique qui vous laissera la bouche bée, je vous le garantis, pour voyager dans votre esprit. Et ceci viendra se rattacher aux épisodes de la podcast Masterclass Series, toute initiale que nous avons fait sur la méditation, c'est-à-dire les épisodes 5 à 8 de cette chaîne de podcast, dont le thème était « Comprendre la méditation ». Le tout fera ni plus ni moins que 7 épisodes complets pour bien appréhender la méditation, une véritable formation à part entière. Vous ne trouverez nulle part ailleurs autant de contenu 100% gratuit. Donc, si vous aimez ce que vous allez découvrir, faites circuler, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Et si vous avez envie de contribuer avec nous, laissez-nous une petite note sur Apple Podcast ou Spotify, car plus nous aurons d'étoiles et de commentaires positifs, et plus cette chaîne sera promue auprès de larges audiences par les hébergeurs de podcasts. Maintenant, une fois que vous voyez comment cet épisode s'intègre dans un contexte pédagogique, que allez-vous découvrir aujourd'hui? Pour commencer, dans cette cartographie, nous allons partir en voyage sur 5 phases différentes. Chacune de ces phases-là peut être pénétrée à partir d'une certaine qualité d'être et de pratique. Du coup, nous allons vous donner dans chacune de ces étapes-là, quelle est cette qualité d'être, quelle est cette pratique et tout ce que vous allez pouvoir découvrir à l'intérieur de chacune d'entre elles. Pour résumer, la première phase, ce sera aller de l'agitation au calme. Ce sera de sortir de la zone de flou et d'agitation et commencer votre pratique méditative. Ça, c'est la phase numéro 1 qui est commune avec la phase numéro 1 que nous avons décrite dans l'épisode antérieur. La phase numéro 2, on va du calme à l'intériorité. Et c'est là-dedans que nous sommes dans une zone de développement et de contemplation intérieure. Dans la phase 3, on ira de l'intériorité à l'ouverture que je nomme unitaire. Et c'est une zone de lâcher prise contemplative, bien évidemment, on expliquera ce que tout cela veut dire. Dans la phase numéro 4, on est déjà dans des phases particulièrement avancées, on va de l'ouverture unitaire à l'unité fusionnelle, ce que l'on pourrait appeler une zone de fusion mystique. Et restez avec moi, car nous allons aussi expliquer tous ces termes-là. Et phase ultime, la phase 5, celle qui passe de l'unité fusionnelle à la vacuité. Et c'est une zone d'unicité. On pourrait dire que pour beaucoup de traditions et beaucoup de courants méditatifs, c'est le Saint Graal de la méditation qui ne s'ouvre que à certains pratiquants très assidus. Mais avant de continuer, chers amis, permettez-moi de vous dire que le but de cette chaîne est de diffuser au plus grand nombre et gratuitement des clés et des pépites pour la transformation et la croissance personnelle. Nous voulons apporter des contenus positifs, constructifs, pédagogiques, humains et responsables, servis avec pragmatisme et une approche pratique qui donne toute sa place au bon sens et à l'expérience vécue. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de partager avec vous un comment pour vous permettre de faire, de passer à l'action, expérimenter à travers des actions concrètes et pas juste de philosopher ou de nourrir le mental. Car le moment est venu de réinventer notre humanité et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Cette chaîne de podcast fait partie d'un projet de contribution et de diffusion de plus grande ampleur pour aller au cœur de l'humain et de son potentiel. Il s'appelle Conscious Media, le média pour une vie pro et perso en conscience. Retrouvez-nous pour découvrir tous nos contenus sur www.konxus-media.com. Et si, au gré de l'écoute de ces épisodes, vous avez envie d'interagir avec nous, de participer, de poser des questions, ou ne serait-ce que d'apporter d'autres nuances à ce que nous vous présentons ici, ou apporter aussi des critiques constructives, ou, meilleur du meilleur, nous proposer des thématiques pour de futurs épisodes, n'hésitez pas à nous écrire à hello@konxus-media.com. Ce sera pour nous un plaisir d'interagir avec vous, voire même de nous laisser inspirer par vos idées créatives. Attaquons-nous maintenant à la thématique de l'épisode qui nous tient à cœur aujourd'hui. La description qui va suivre a pour vertu de donner avant tout et surtout un cadre. Un cadre vous aide à y voir plus clair et à définir des frontières. Ainsi, il vous aide à nommer et à délimiter, et par conséquent, à y voir plus clair. Je vous garantis que ceci va vous économiser des années des pratiques et de recherches à tâtons dans votre expérience méditative. Mais attention, en dépit de ce cadre-là, gardez toujours vos horizons ouverts et considérez que d'autres découvertes peuvent avoir lieu qui ne sont pas décrites ici. Cet épisode n'est pas une vérité écrite sur le marbre. C'est un cadre pour vous permettre de rajalonner votre chemin, mais n'oubliez jamais que vous êtes aussi explorateur, exploratrice de vos propres réalités intérieures. Et ceci est une quête qui se fait dans l'expérience personnelle. Cette trame que je vais vous présenter aujourd'hui a été approuvée par divers grands méditants bouddhistes que j'ai consultés pour approfondir la qualité du travail fourni. Que les grands méditants soient bouddhistes ou pas, importe peu dans le travail que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une approche complètement laïque. Mais en ce qui me concerne, l'accès le plus direct que j'ai à des personnes qui ont pratiqué la méditation pendant très 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 longtemps, certains d'entre eux plus de 10 ans enfermés, je mets des guillemets, à pratiquer la méditation, eh bien dans ce cadre-là, pour moi, dans ce contexte-là, pour moi, ce sont des grands méditants bouddhistes. Mais encore une fois, tout ce que vous allez découvrir est totalement laïque et praticable, quelle que soit votre confession. Ce travail, je l'ai fait initialement pour ma propre compréhension. Et je l'ai affiné au gré des années à l'aide de beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques et d'échanges avec de grands méditants. Les débats qui naissaient de ces échanges allaient du développement personnel au développement spirituel, en passant par le développement intérieur. Bref, c'était d'une richesse insondable. Et donc, je vous invite à vous laisser porter par les réflexions et les questionnements qui vont émerger de ces contenus que je vais vous partager, des différentes phases, mais surtout, surtout de la pratique qui en découlera. Car vous allez avoir des indicateurs précis, des indications précise sur comment passer d'une phase à une autre. Et il s'agit juste d'une expérience méditative où vous découvrirez différents endroits. Laissez-vous porter par les réflexions et les questionnements qui émergeront de ces pratiques-là, parce que les découvertes qui s'ouvriront sont absolument magnifiques. Et si, au gré de ces pratiques-là, il y a quelque chose que vous nous aimeriez nous raconter ou des questions que vous aimeriez poser, n'hésitez pas à nous écrire à hello@konxus-media.com. Et maintenant, allons tout droit au but. Comme je vous l'ai dit, cette cartographie de la méditation est décomposée en cinq phases. Une première phase qui est le passage de l'agitation au calme. On va sortir de la zone de flou et d'agitation, car c'est là que tout commence. Cette phase-là, je vous le disais tout à l'heure, est identique à la description que nous avons faite dans l'épisode antérieur. Mais je vous fais un petit laïus ici aussi, si jamais vous n'avez pas écouté cet épisode encore, ou éventuellement vous aurez pu l'oublier. C'est une phase très simple, surtout si vous méditez, vous connaissez cette phase-là, c'est sûr et certain. C'est le début de la pratique. Et à ce moment-là, tout le monde a à faire face à cette zone. Elle durera plus ou moins longtemps suivant les jours et surtout aussi suivant la régularité et l'intensité de votre pratique. On pourrait dire que la phase numéro 1 est la zone de mise en route. C'est là que vous faites face aux ennemis du calme, ce que j'appelle l'agitation. Toute cette agitation que vous sentez, vous n'êtes pas parfaitement en place, il vous faut un certain temps pour rentrer dans la pratique méditative. Eh bien, cette pratique méditative prend du temps parce qu'il y a des agitateurs. Ce sont les ennemis du calme. Et en priorité, nous en avons trois. Le stress cumulé dans la journée, la nervosité que nous portons avec nous, l'anxiété, toutes ces choses-là qui viennent être alimentées par le stress, la peur et les émotions qui peuvent être rattachées, et les ruminations et les vagabondages mentaux. Ces trois ennemis principaux, peur, stress, rumination, ont beaucoup de copains qui viennent se rajouter et qui créent une zone d'agitation. Dès que vous mettez en pratique méditative, la première chose que vous allez rencontrer, c'est cette zone d'agitation. Et au gré d'un certain temps, vous allez retrouver une zone de calme intérieur. Le but de traverser cette zone-là, c'est de faire un retour à une zone de calme intérieur. Cette phase-là, elle peut durer quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes pour certains, mais le vrai retour au calme pourrait prendre plusieurs jours. Donc, ce que l'on appelle un retour au calme pour la pratique méditative n'est pas le véritable retour au calme. Si vous voulez expérimenter un véritable retour au calme intérieur, je vous invite un jour à faire une retraite de méditation, c'est-à-dire que vous partez 4, 5, 6 jours, peut-être parfois 10 jours de méditation, vous ne faites que méditer pendant toute la journée. C'est-à-dire que c'est une pratique condensée de ce que vivent ces grands méditants pendant des années. Et là, vous vous rendrez compte, surtout si vous êtes pratiquant de méditation assidue, vous rendrez compte qu'il vous faut entre 24 et 72 heures de pratique intensive pour arriver à ce moment où vous réalisez que vous touchez une zone de vrai calme. Au bout de tout ce temps-là de pratique. Mais le retour au calme dont nous avons besoin aujourd'hui n'a pas besoin d'être ce retour au calme de ninja dont je suis en train de parler, et vous pouvez l'atteindre au bout de quelques minutes. Et c'est tout ce qu'il nous faut pour passer à la phase suivante. Dans la phase numéro 2, nous avons contacté ce calme intérieur. Eh bien, du calme, nous allons aller vers l'intériorité. Et ici, nous sommes dans une zone de développement et de contemplation intérieure. Une fois que vous avez atteint la zone de calme intérieur, après l'agitation, vous découvrez ce que j'appelle... Une fois que vous avez atteint la zone de calme intérieur, vous découvrez l'intériorité, à savoir l'observation fine et précise de ce qu'il se passe en vous. Dit autrement, si vous voulez mieux vous connaître et vous découvrir, c'est ici que ça se passe, dans cette phase-là. C'est une zone richissime en découvertes. Et comme c'est la moins profonde de toutes, ou la première que l'on va accéder, ce serait plus juste que de parler de profondeur, elle est la plus accessible. Et ça tombe bien, car c'est ici que vous pouvez découvrir une version sublimée et augmentée de vous-même. Rien que ça. Mais je m'explique. Dans cette zone, il y a une notion d'observation intérieure qui se met en place. Et là, il s'agit de ressentis, d'informations, différents flux et circulations qui se passent en vous, des énergies, des zones de tension, etc., etc. Grâce à ça, vous allez capter énormément d'informations utiles. Et comment vous les captez? dans la contemplation, c'est-à-dire dans l'observation pure et simple de ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous regardez. Le sujet de ce travail-là pourra être du développement personnel. Ça pourra vous aider à mieux vous connaître et aussi à vous libérer. Car en vous observant vous-même, vous serez en moins... Vous serez en mesure de comprendre quels sont tous ces mécanismes qui vous influencent. Et ainsi, en les découvrant, vous pourrez agir sur eux. Ceci est le développement personnel. Mais vous pouvez aussi vaquer à du développement intérieur. C'est-à-dire que vous ne vous occupez plus ou pas de ce qu'est la construction de votre personnalité, qui est le propre du développement personnel, la construction et la compréhension et le développement de votre personnalité, vous allez vaquer à éveiller de nouveaux potentiels, c'est-à-dire des capacités que vous avez à l'intérieur de vous et que vous pouvez activer si vous savez où se trouve le bouton qui les active. Une immense majorité des épisodes de cette chaîne de podcast se concentrent sur les découvertes que vous pouvez faire dans cette phase. Alors nous, en tant qu'occidentaux bien pragmatiques, nous aimons des outils et des ressources pour mieux vivre le quotidien, du bien-être, du mieux-être, mais aussi cette transformation personnelle pour découvrir des versions améliorées de soi. Une sorte d'augmentation de l'être. Tout ça, on kiffe en Occident. Eh bien, ici, c'est là que vous allez pouvoir trouver un paquet, excusez-moi l'expression, beaucoup de ressources pour déployer, par exemple, une meilleure ou une plus grande intelligence émotionnelle, une gestion et une compréhension de l'énergie et de votre énergie, un développement de capacités, certaines d'entre elles subtiles. Aussi, vous pourrez travailler votre charisme, la créativité, et je mets des points en suspension car la liste est très longue. Tout ce qui touche à ce que vous êtes capable de faire et à ce qui touche à comment vous êtes capable de mieux le faire, se passe dans cette phase-là. C'est la phase à la fois de performance, d'excellence et de sublimation de nos capacités d'être humain. Or, il est important que je vous dise que pour certaines écoles, cette phase est considérée comme une perte de temps. Ce sont les écoles que j'appellerai du dénuement. Et des écoles spirituelles qui vont aller chercher à vous libérer d'une pléthore de choses qui ne font que vous perdre sur le chemin de l'éveil. Parmi ces écoles, je vais citer notamment l'école bouddhiste, encore une fois, non pas que je sois bouddhiste, mais parce que c'est celle qui l'explique de la façon la plus précise. Car ils parlent, eux, d'illusions. Les bouddhistes disent que nous vivons dans un monde d'illusions et que toutes ces choses-là que vous allez découvrir dans cette phase-là ne font que nourrir l'illusion. Parce que, in fine, d'après les bouddhistes, nous vivons dans une sorte de projection illusoire créée de toutes pièces et qui n'est pas la réalité. Tout ce qui vous permet d'être meilleur, d'être mieux dans cette zone-là d'illusion ne fait qu'alimenter et pérenniser l'illusion à travers notamment la nourriture que ça donne à l'ego et à la personnalité. Et toutes ces choses-là, d'après cette école-là, nous éloignent de la nature, de l'esprit et du chemin d'éveil qui nous est invité à faire dans ce monde-là. Mais ceci, comme je disais, concerne surtout des écoles spirituelles qui utilisent la méditation pour atteindre un certain degré d'éveil. Si vous êtes dans la vie de tous les jours et que vous aimeriez être meilleur dans ce que vous faites, cette zone-là, vous allez particulièrement la kiffer. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, de ce podcast et vous voulez faire une des preuves d'appui, voici un geste que vous pourriez faire qui me remplirait de joie. Je viens de publier mon premier livre, Quick Wins, le livre pour booster ton potentiel. Des résultats et une énergie de ouf en claquant des doigts. Nous passerons un bon moment ensemble entre ces pages avec humour et légèreté. C'est un livre facile à lire, mais qui prend très au sérieux la qualité, le fond, la forme et les sources. Quick Wins ou comment éveiller le potentiel de vos cinq corps rapidement, avec peu d'efforts, mais avec des résultats garantis. Une entrée en matière idéale pour ceux et celles d'entre vous qui voulaient éveiller votre potentiel et découvrir une nouvelle version de vous-même. Et comme vous l'avez entendu, ça se passe dans la phase que nous venons de découvrir. Vous trouverez le livre en vente sur Amazon pour 19,90€. Recherchez Iker Aguirre, I-K-E-R-A-G-U-I-2-R-E. Et vous aurez aussi, bien évidemment, le lien du livre dans la description de ce podcast. Si vous aimez ce que vous avez lu, n'oubliez pas de laisser un avis. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'Internet où les avis sont essentiels. Ce livre compte à ce jour 5 étoiles et les avis en disent long sur l'expérience de lecture. Maintenant, la phase numéro 3, qui va de l'intériorité à l'ouverture unitaire. Et je mets des guillemets à ouverture unitaire parce que ça, c'est un terme maison. On va ici rentrer dans une zone de lâcher prise contemplative. L'intériorité que vous avez découvert dans la phase numéro 2 est comme un feu d'artifice sensoriel. Elle capte votre attention et vous invite à explorer votre fort intérieur. Mais quand vous lâchez cette stimulation, vous progressez vers un lâcher-prise contemplative. C'est-à-dire que vous continuez à observer, mais vous ne vous laissez plus happer par les découvertes que vous faites. Tout simplement, ce qui se passe, se passe. Et vous vous contentez d'observer ce qui est, sans attente, sans jugement et sans accroche. C'est comme quand vous regardez l'horizon et que vous avez le regard perdu dans le vide, et que votre esprit est soudainement lui aussi perdu dans le vide, ou que vous regardez un point dans le mur comme absorbé, absent et très présent à la fois. Moi, je me rappelle la quantité de fois où en cours à l'école, j'expérimentais ces moments-là. Il suffisait d'un point dans un mur et pff, tout disparaissait autre que ce point-là. Et soudainement, quelqu'un vous parlait et vous reveniez au monde. Et bien là, cette expérience que je suis sûr beaucoup d'entre vous avez vécue est une expérience de lâcher prise contemplative. Dans cet état de laisser être, je mets des guillemets à laisser être, s'opère une transformation de votre pratique qui dépasse le mental. Cette transformation ne s'opère que par elle-même, par la qualité de votre présence contemplative et le plus important, détaché de toute attente et de toute action. Je répète, cette transformation de la pratique s'opère par elle-même. Vous n'avez absolument rien à faire. Et c'est ça le plus important. C'est que vous vous êtes libéré de vous-même, de vos attentes, de votre mental. Et c'est ça le plus difficile. Accepter de ne rien faire. Le véritable ne rien faire. Et c'est alors, accrochez-vous, que se présente un nouvel espace d'ouverture à l'unité. Et c'est ici que vous allez vivre les expériences dites de lumière ou mystique, si vous êtes croyant. C'est une zone incroyable quand vous y rentrez et que vous vivez ces expériences-là. Ce sont des expériences souvent puissantes et magnifiques. Mais c'est une zone très fragile que l'on va quitter dès que le mental s'active. Elle n'est que pour ceux et celles qui sont dans le lâcher-prise contemplatif le plus total. Car la profondeur véritable attend ceux qui se taisent. Alors maintenant, il est important que je fasse une parenthèse. Parce que évoluer dans ces espaces est tout aussi magnifique, magique, extraordinaire que une source potentielle de pièges. Évoluer dans ces espaces pour bien faire et bien évoluer requiert une guidance. Car sans elle, vous avez vite fait de vous raconter des histoires, de vous faire des films et de vous créer pléthore de barrières mentales qui, in fine, limiteront votre pratique et votre évolution. Nous sommes là dans des degrés, des espaces particulièrement avancés. Pour bien évoluer dans ces derniers, si vous sentez que vous avez de la facilité à rentrer, cherchez des personnes qui vont pouvoir vous guider avec des pratiques précises et surtout qui vont pouvoir répondre aux questions qui émergent à travers les expériences que vous vivez. Car, attention au piège. Beaucoup de personnes qui découvrent ces pratiques méditatives ou ce travail de développement personnel intérieur ou spirituel se mettent en quête de sensations fortes et ont tendance à forcer l'entrée dans cette phase. Vous verrez que dans la pratique méditative, cette phase se mérite, qu'il est très, je dirais pas compliqué, mais il n'est pas simple de rentrer dedans. Et que ce n'est pas tous les jours que vous allez rentrer dedans. Ça se mérite, réellement ça se mérite. Donc, ils font un certain travail et c'est vraiment un processus méritocratique. Beaucoup de personnes n'ont pas envie de se donner les efforts pour atteindre de bien faire. Et vont vouloir forcer l'entrée dans cette phase-là. Il y a plein de méthodes et de substances et de choses qui peuvent vous aider à forcer le passage d'entrée dans cette phase-là. Attention, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une guidance. En plus, certaines de ces personnes-là comptent leur évolution spirituelle au nombre d'expériences extraordinaires qu'elles ont eues. Plus elles en ont eues, plus elles se considèrent comme des personnes spirituelles, ce qui est une énorme baliverne. C'est un énorme piège bloquant et limitant à la fois. Alors faites très attention au matérialisme spirituel, qui est ce que je viens de décrire. Les expériences de lumière que vous allez vivre sont certes magnifiques. La seule chose qu'elles prouvent, c'est que vous avez été capable de descendre dans cette phase spécifique de méditation et que vous avez su y rester dans les bonnes conditions. C'est tout. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de beaucoup plus spirituel. Et maintenant, la phase numéro 4, où l'on va progresser de l'ouverture unitaire à l'unité fusionnelle. Encore une fois, des termes maison. Si vous prolongez le lâcher-prise contemplatif, vous commencez à vous dénuder de tout. Même de vous-même. Même de votre propre présence. Et c'est là la difficulté de cette phase-là. C'est que si vous vous libérez d'abord de l'impact de votre mental, de votre besoin de contrôle, etc., etc., ça c'était dans la phase antérieure. Ici, maintenant, vous allez continuer ce dénuement. Et à un moment donné, il y a une part de vous qui se dénude aussi et qui se délite. Et comme si elle commençait à disparaître aussi. C'est comme si vous lâchiez tout, absolument tout, dans la paix et la confiance pour fusionner avec ce qui est. À ce moment-là, les frontières entre vous et le reste, et je mets des guillemets à reste, deviennent très perméables. Il y a une sorte de flou qui se crée entre vous et le reste. C'est comme si vous commenciez à embrasser cette notion d'unicité dont on va parler dans la dernière étape. Toute la difficulté ici est de vaincre la retenue, le contrôle, voire pour certains, la peur archaïque de l'instinct de survie. Le simple fait de sentir que l'on s'efface pour quelque chose d'autre peut venir allumer cette peur archaïque de dire « Attends, pourrais-je disparaître ?» Si vous y parvenez, vous avez alors la possibilité d'expérimenter l'unité fusionnelle. Un moment de grâce où vous fusionnez avec la nature même de votre esprit et de son essence. Et maintenant, nous entamons la dernière phase de l'unité fusionnelle à la vacuité, ce que l'on pourrait appeler la zone d'unicité. Mais maintenant, il faut que je fasse une petite parenthèse et que je vous dise qu'ici, je ne parle que en théorie. Parce qu'il m'est arrivé une seule fois d'avoir la chance de m'approcher, et je dis bien de m'approcher de cette zone. Mais au moment de basculer, eh bien, la conscience de ce qui était en train de se passer et la peur de disparaître l'ont emporté et immédiatement j'ai été arraché. J'ai eu beau m'évertuer à essayer de retrouver cet espace-là, je ne l'ai plus jamais retrouvé une deuxième fois. J'espère un jour pouvoir l'exprimer. C'est pour cela qu'il est important que je vous le dise, car tout ce que je vais vous décrire maintenant, je ne le tiens que par théorie ou que par des expériences d'autres personnes. Donc, avec toute la prudence, je m'oblige à vous dire cette réalité-là. Ceci étant dit, quand je me suis retrouvé à cette frontière où je passais de la phase 4 à cette phase 5 d'unicité, à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il y a une partie de moi qui allait complètement fusionner avec quelque chose de beaucoup plus vaste que moi, mais que dans cette fusion-là, il y avait tout moi qui allait comme disparaître. Et je ne sais pas ce qui m'attendait de l'autre côté, mais le simple fait de sentir qu'il y avait toute cette part de moi que je devais complètement lâcher, j'étais dans l'incapacité de le lâcher, et c'est ce qui a mis fin à l'exercice. Mais c'est aussi dans cette lisière-là, le fait de l'expérimenter, de cette lisière, que j'ai pu comprendre beaucoup de descriptions du Tao Te Ching, que j'avais beau avoir lu des dizaines de fois, mais que je n'avais compris que à ce moment-là. Quand, par exemple, le Tao Te Ching de Lao Tzu dit que le Tao cesse d'être le Tao dès qu'il est nommé. Eh bien, c'est exactement cette zone-là, où au moment de pénétrer dedans, c'est comme cette fusion totale devenait autre chose de nettement plus vaste. Mais dès le moment où la conscience reprenait sa place, cette zone cessait d'exister. Je me suis retrouvé à la frontière d'une zone sans conscience, ou du moins telle que je connais la conscience. Et j'étais à la frontière. Donc je ne peux pas affirmer que c'était une zone sans conscience. Alors que je la pénétrais, ma conscience s'est alarmée. Dès le moment où elle s'est alarmée, j'ai quitté cette zone potentiellement sans conscience. Dans cette frontière-là, j'avais le sentiment d'être tout et de rentrer enfin dans le vrai. C'est pour ça que c'était tellement frustrant quand ma peur intérieure m'a réveillé. C'était un réveil, m'a sorti de cette zone-là. C'était extrêmement frustrant parce que je sentais que j'étais dans le vrai. Et donc, j'en suis resté aux portes. C'est extrêmement frustrant. Et je n'ai plus jamais touché cet espace. Et ce qui devient difficile quand tu l'expérimentes une première fois, c'est que la suivante, tu as une attente. Il y a les règles d'or, dans l'expérience méditative, c'est que dès le moment où tu as une attente et que tu cherches à obtenir quelque chose, c'est comme de l'humour dans cette pratique, eh bien cette chose va se dérober. Elle va te passer entre les doigts. Je pense que je dois nourrir pas mal d'attentes car je n'ai plus été capable de toucher cet espace-là. Du coup, je vous parle en théorie. Je me base aussi en vous racontant tout ça sur de nombreuses lectures et des enseignements que j'ai pu suivre auprès de maîtres spirituels et de grands méditants. Mais la théorie est aussi celle qui est décrite par les grandes traditions. Quelles qu'elles soient, l'immense majorité d'entre elles pointe vers une fusion unitaire avec la source. Et donnez le nom que vous voudrez à cette source-là. S'immerger en soi, c'est découvrir l'univers. Serait-ce ça, l'unicité ? Chers amis, merci d'être restés avec moi pour la durée de cet épisode dédié à une cartographie de l'expérience méditative. Nous avons traversé ensemble 5 phases qui étaient déterminées non pas par la profondeur de l'expérience méditative, ça c'était l'épisode antérieur de cette chaîne, mais par la qualité d'être de votre contemplation et de votre expérience. Il a été question d'une première phase qui nous a mené de l'agitation au calme, une phase commune à toutes les expériences méditatives. Une fois sortis de la zone de flou, nous avons atteint une zone de développement et de contemplation intérieure, en passant du calme à l'intériorité contemplative. Une nouvelle phase s'est ouverte après, quand nous sommes passés de l'intériorité à l'ouverture unitaire. C'était une zone de lâcher prise contemplative. Puis ensuite, une quatrième phase qui allait de l'ouverture unitaire à l'unité fusionnelle. Ouf ! Cette zone était appelée de fusion mystique. et une dernière phase où l'unité fusionnelle nous a menés vers la vacuité dans une zone d'unicité, le nec plus ultra des pratiques méditatives spirituelles. Je suis Iker Aguirre et ceci est votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de podcast pour découvrir les épisodes futurs, appuyez sur la petite cloche de notification et vous serez sûr de ne rien rater sur tout ce que nous avons encore dans notre besace pour le futur de cette chaîne, notamment le dernier épisode de cette série sur la méditation avec cet outil neuroscientifique pour vous accompagner avec certitude dans la découverte des différents espaces de votre esprit. Surprise assurée, découverte waouh pour l'épisode prochain. Donc n'hésitez pas à vous abonner et une fois que vous y êtes, si vous voulez contribuer, vous pouvez faire quelque chose de très simple qui ne coûte rien, c'est de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Car plus nous aurons d'étoiles et de commentaires positifs, et plus cette chaîne sera promue auprès de larges audiences par les hébergeurs de podcasts. Et dernière chose, et pas la moindre, si vous aimez cet épisode et vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'apprécier, n'hésitez pas à le partager avec lui ou avec elle, car les meilleures fêtes sont toujours entre amis.